Vous écoutez Transistor, votre radio associative qui intervient dans les établissements scolaires du territoire. Cette année, les élèves de 3e du Collège Saint-Yves à Quimper se sont intéressés à la Seconde Guerre mondiale. En plus de leur programme d'histoire, ils et elles se sont demandé comment la guerre et le régime nazi ont marqué le Finistère et la ville. Tout de suite, on écoute Clotaire et Luca qui ont pu visiter les archives municipales de la ville.
Quelles sont les principales missions du service des archives municipales au quotidien ?
Alors, les missions générales, c'est celle de tout service d'archives, c'est-à-dire ce qu'on appelle les 4 C en quelque sorte, c'est la collecte, le classement, la conservation, la communication. Donc, c'est un peu les grands piliers sur lesquels on s'organise au quotidien dans notre travail. Et puis, je rajouterai un autre, c'est la valorisation. C'est-à-dire que de plus en plus, on a besoin, pour répondre aux demandes des publics, de communiquer aussi et de valoriser à travers soit des publications, des expositions temporaires, des mises en ligne sur le portail internet des archives, de documents, d'expositions virtuelles ou temporaires, de participer à des publications, etc. Donc, ça fait partie du travail des archivistes.
Et ça vous arrive de jeter des documents parce qu'ils sont en mauvais état ?
Alors, on ne jette rien, on ne jette pas. Parfois, on détruit. Ce qu'on appelle, on élimine. Alors, les éliminations d'archives publiques sont très réglementées. On est dans un cadre, ce qu'on appelle le contrôle scientifique et technique des archives départementales qui agissent au nom du préfet, au nom de l'État, pour autoriser préalablement les destructions d'archives publiques. Donc, on ne fait pas n'importe quoi. Au contraire, c'est quelque chose qui est bien cadré. On a de multiples textes, instructions circulaires qui nous imposent des durées de conservation pour tel ou tel type de document. Et c'est simplement à l'issue de ces périodes qu'on va choisir d'éliminer, de conserver, d'échantillonner pour la recherche telle ou telle série de documents. Mais tous les documents antérieurs à 1940 sont systématiquement conservés, quel que soit leur état. Et puis, les documents abîmés sont plutôt restaurés. Parce que, évidemment, ça fait partie aussi des missions d'un service d'archives. Alors, un petit service comme le nôtre n'a pas de service de restauration. C'est réservé à des grands services. Donc, on fait appel à des prestataires privés qui sont des restaurateurs professionnels, qui ont toutes les compétences et les habilitations pour réaliser ce type d'intervention sur des archives publiques ou privées.
Quel type de documents conservez-vous et comment sont-ils classés ?
Alors, ils sont classés de la même manière à Brest qu'à Quimper. Vous savez, les fonds d'archives sont organisés selon ce qu'on appelle un cadre de classement. C'est un cadre de classement qui est national, qui va affecter en fait les dossiers à des séries existantes qui correspondent pour les communes aux principales missions du maire et de ses services. Et donc, par exemple, les affaires concernant la conscription, les affaires militaires, ce sera en série H. Les comptes et budgets, les services des finances, les factures, les marchés, tout ça, ce sera pour la période moderne en série L. Alors, les archives départementales ont aussi un cadre de classement par lettre, sauf que les lettres ne correspondent pas aux mêmes séries. La série L des archives départementales, c'est la période révolutionnaire. Rien à voir avec la série L des communes qui concerne les collections de comptes et budgets de la ville. Mais en tout cas, pour ce qui concerne les communes, le cadre de classement est national. Il a été établi en 1926 et il s'applique jusqu'à la création de la série unique des archives contemporaines. Pour ce qui concerne Quimper, la série unique dite W, concernant l'ensemble des archives dites contemporaines, a été mise en place et ouverte en 1960. Donc avant 1960, on est sur des archives modernes qui sont classées selon le cadre de classement de 1926, en série, sous-série, etc. Après 1960, on a la série W pour les archives dites contemporaines, une seule série unique où les versements arrivent les uns après les autres et reçoivent un numéro de versement, etc. Et avant la série moderne, on a ce qu'on appelle les archives anciennes. Donc ce sont aussi, c'est un cadre de classement qui est propre avec des doubles lettres. Par exemple, vous aviez la série G au 19e siècle qui concernait les contributions, les impôts en fait. La série GG, double lettre, pour la période antérieure à la Révolution, concerne en fait le culte. Et là, vous allez trouver les registres paroissiaux de catholicité, par exemple, et les éléments qui sont en lien avec l'exercice du culte à Quimper.
Comment les habitants peuvent-ils consulter les archives et y a-t-il des restrictions d'accès ?
Alors, le principe de communicabilité des, et de communication des archives est libéral. Hein. Depuis la Révolution, en fait, c'est la Révolution française qui a créé les services d'archives. Afin de permettre aux citoyens d'exercer leurs droits et d'accéder aux documents qui pouvaient les concerner. Et de manière à ce que les fonctionnaires rendent aussi des comptes sur l'activité. Et puis, pour l'histoire et la mémoire des collectivités, il fallait aussi sauvegarder les documents. C'est comme ça qu'à la Révolution, on a déposé dans les communes les registres paroissiaux avant la création de l'État civil. Sinon, vous n'aviez pas de moyen de connaître l'identité et la filiation des personnes avant la Révolution, sauf à préempter les collections de registres qui étaient dressées par les curés. Et donc, c'est ce que la Révolution a fait. S'agissant de l'accès aux archives, en fait, la consultation se fait en salle de lecture. Donc, c'est une inscription simplement qui se fait pour l'année sur présentation d'une pièce d'identité. Alors, pourquoi une pièce d'identité ? Parce qu'il faut pouvoir s'assurer de l'identité de la personne à qui on va communiquer des documents originaux, souvent uniques. Les documents d'archives, contrairement aux documents qu'on retrouve en médiathèque, par exemple, ne sont pas des documents souvent imprimés en grand nombre. Ce sont souvent des documents qui n'existent qu'à un ou deux exemplaires. Et donc, il faut s'assurer qu'on a donné à la bonne personne le document en question et qu'on puisse suivre justement l'histoire de ces communications. C'est gratuit. Il n'y a pas de limitation d'âge. Vous pouvez être collégien, lycéen, étudiant, chercheur. Vous pouvez être journaliste. Vous pouvez être simplement un particulier qui achète une maison mais n'a pas les plans de sa maison à Quimper. Il va essayer de trouver les plans chez nous. Vous pouvez avoir quelqu'un qui fait une recherche sur l'histoire de son quartier, qui va rechercher des photographies ou des cartes postales. À côté, en effet, du cadre de classement, on va dire... celui dont je vous parlais, là, des 1926, on a des choses aussi qui sont hors cadre de classement. Et parmi ces collections hors cadre de classement, on a notamment les fonds iconographiques. Ces fonds iconographiques, comme leur nom l'indique, c'est tout ce qui concerne l'image. Alors, ça va du plan, ça va aux estampes, aux collections de gravures, de photographies, de dessins. On a même des choses qui sont particulières. On peut avoir des collections de médailles également, enfin, toutes sortes. On a un panel, en fait, de collections qui est relativement varié. Secret défense. Par contre, en commune, comme en archives départementales, comme ailleurs, il y a des délais de communicabilité hein, qui s'appliquent partout, en lien avec la préservation de la vie privée des personnes, avec la protection de leur état civil, des éléments individuels, personnels. C'est tout à fait normal et nécessaire. Donc, mais s'agissant de la Seconde Guerre mondiale, les fonds remontant à jusqu'en 1945 sont largement et totalement ouverts au public, en fait.
Quels sont les grands défis de votre métier, notamment avec la numérisation des documents ?
Alors, c'est pas tellement la numérisation des documents qui pose souci, c'est la dématérialisation des documents. Les documents qu'on conserve sous format numérique sont souvent aujourd'hui des copies de documents qui sont nativement papier. Donc ce sont des copies utiles pour la communication et la diffusion. C'est comme pour les portails internet des archives où vous avez des collections entières de registres d'archives, de collections, de fonds qui sont mis à disposition sous ce format-là au public. Ça permet à des centaines de personnes de consulter en même temps un document qui est unique en papier. Donc c'est intéressant. Le vrai challenge, on peut dire, ça concerne surtout l'avenir des archives totalement dématérialisées. Donc là, on a le souci d'avoir des outils, des systèmes d'archivage électronique qui soient pérennes, qui permettent en fait d'assurer sur le très très long terme des conservations de documents publics, d'en assurer la sécurité, la permanence, de savoir qu'on ne puisse pas trafiquer, en quelque sorte, de modifier en tout cas les contenus de documents publics, il s'agirait de n'avoir nativement que sous format numérique. Donc là, il y a des enjeux qui sont forts. Et puis, la communicabilité des documents en elle-même ne pose pas de problème, parce que ce soit un document numérique ou un document papier, la réglementation est la même. Donc là-dessus... Par contre, autre souci, c'est que la dématérialisation de la production administrative est exponentielle et va poser tôt ou tard un souci sur le coût de conservation au niveau des serveurs qu'il faut mettre en place, développer sans cesse. Ça pose un autre problème aussi sur le coût environnemental, parce que les fermes de serveurs, c'est jamais très bon hein, pour le climat. Pour l'environnement. Donc ça pose, oui, que ce soit l'administration ou les archives ou l'ensemble de la sphère publique, ça pose des questions.
Quelles sont les archives que vous avez le plus ? Quelle période de l'histoire ?
Alors plus on remonte dans l'histoire, moins on a d'archives. Voilà, donc le document le plus ancien ici date de 1358. Et c'est une pièce unique pour cette période-là. Donc après, on va avoir des séries qui sont à peu près suivies. La série des comptes et budgets, par exemple, de la ville remonte au XVe siècle. On a une série de délibérations depuis 1587. Plus on avance comme ça dans le temps, plus on a une diversité des collections. Évidemment, je dirais que la production d'archives suit l'évolution de la collectivité. C'est-à-dire en 1960, on a la création du Grand Quimper et donc une explosion en fait du périmètre d'activité, du nombre d'agents publics, des missions, et tout ça génère des archives qui sont en plus grand volume. Et à partir de ce moment-là, on a une augmentation en flèche de la production administrative. Voilà, tout simplement. Donc, on ne produit pas pour le plaisir de produire des archives. Hein. Ça répond toujours à des missions de service public et à des nécessités impératives pour respecter la réglementation. Plus on construit de maisons, plus on fait d'immeubles, plus il y a de commerce, plus il y a d'activités dans une ville, plus on a d'établissements, d'équipements culturels et autres, plus ça génère, plus il y a d'écoles, etc. Plus ça, tout cet ensemble-là génère évidemment une production de documentaires qui est en lien avec l'activité, l'importance de la ville.
Tout de suite, on écoute Théo et Bastien qui se sont intéressés au vécu des enfants sous l'occupation. Tout de suite, on écoute Théo et Bastien qui se sont intéressés au vécu des enfants sous l'occupation. Tout de suite, on écoute Théo et Bastien qui se sont intéressés au vécu des enfants sous l'occupation. Tout de suite, on écoute Théo et Bastien qui se sont intéressés au vécu des enfants sous l'occupation.
Donc les archives contemporaines, évidemment, sont les plus représentées dans les fonds d'archives de la ville qui représentent aujourd'hui un peu plus de 5000 mètres linéaires de documents.
Vous venez d'écouter une émission réalisée par les élèves de 3e du Collège Saint-Yves Le Liquès à Quimper. Ce projet a été possible grâce au soutien de la ville de Quimper. À bientôt pour de nouveaux ateliers radio et bonne écoute sur Transistor.